Si le charivari de Frédéric Bonneau.
Charivari.
Frédéric Bonneau.
Il est philosophe, directeur de l'IRCAM et il essaie de penser le temps présent, ce qu'il appelle l'époque hyper-industrielle. Après Aimer, s'aimer, nous aimer, son précédent livre, sous-titré du 11 septembre au 21 avril, Bernard Stiegler poursuit sa réflexion à propos du règne hégémonique du marché et de la destruction de ce qu'il appelle le narcissisme primordial qui constitue chacun de nous. L'omniprésence du marketing servant à canaliser notre libido de consommateur vers les objets de la consommation. De cette prise de contrôle, des coule une profonde misère, une misère symbolique. De la misère symbolique, c'est le titre du dernier ouvrage de Bernard Stiegler, dans lequel il commence par constater que l'immense majorité de la société, notre société, vit dans des zones esthétiquement sinistrées, où l'on ne peut pas vivre et s'aimer parce qu'on y est esthétiquement aliéné. Pour Bernard Stiegler, la question esthétique n'est pas dissociable de la question politique et de la question industrielle, ce qui le ramène au cinéma comme expérience esthétique qui peut lutter efficacement contre le conditionnement, et plus particulièrement, au film d'Alain Resnais. On connaît la chanson. Bernard Stiegler est l'invité de ce charivari. De la misère symbolique, c'est le tome 1, ça s'appelle l'époque hyper-industrielle. C'est chez Galilée. La misère symbolique, la misère, on sait ce que c'est. On parle de misère sociale, misère économique. On n'a même pas besoin d'ailleurs de mettre social ou économique derrière. Qu'est-ce que c'est la misère symbolique?
C'est la privation de la possibilité d'exister. Nous sommes des êtres humains, et nous, les êtres humains, nous voulons exister, c'est-à-dire nous laisser impressionner par les autres, et en retour, impressionner les autres. Quand je dis impressionner les autres, ça ne veut pas dire rouler des mécaniques ou faire le beau, forcément, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais ça veut dire d'abord transmettre quelque chose, être inscrit dans un circuit de don. Par exemple, élever ses enfants. On reçoit des tas de choses dans la vie. On peut être ébloui par Jane Birkin, par exemple. On peut prendre une baffe aussi, mal placée ou malvenue à 3 ans. On est marqué. On est marqué positivement et négativement. Et ces marques, elles nous trament. Elles nous constituent, elles nous font exister et nous les rendons. Parfois très mal, parfois parce qu'on a reçu une baffe à 3 ans, on va donner des baffes toute sa vie à ses gosses. Parfois très bien, parfois parce qu'on a reçu une baffe, on ne donnera plus jamais de baffe. Quoi. Et ça, c'est un circuit de la sensibilité, qui chez l'homme n'est pas la même sensibilité que la sensibilité des êtres vivants, de la nature. L'homme a besoin de s'exclamer. Par exemple, c'est ce que montre le film Les Straubes, qui est sorti récemment.
Oui, qui s'appelle
Visite au Louvre.
Une visite au Louvre, oui.
Par exemple, Cézanne n'en finit pas de s'exclamer devant la Sainte Victoire. Il n'en peut plus de s'exclamer. Et s'exclamer, ça veut dire « je reçois sensiblement la présence de cette montagne comme un mystère et je montre ce mystère qu'est pour moi cette montagne en faisant des tableaux, par exemple. » Mais c'est pas forcément en faisant des tableaux. Ça peut être en emmenant quelqu'un se promener dans cette montagne ou en lui envoyant une carte postale. Ça peut être...
C'est-à-dire juste la donner à voir, cette montagne.
La donner à voir et la donner à savoir aussi. Et c'est-à-dire à savourer. Parce que savoir, ça veut dire d'abord savourer. Le savoir, c'est d'abord de l'ordre de la sensibilité. Ça passe aussi par le concept. Chez Cézanne, d'ailleurs, il y a beaucoup de concepts. Mais c'est d'abord une expérience sensible, et je dis bien une expérience sensible. Or, cette expérience sensible, elle ouvre ce que j'appelle le circuit d'un désir. C'est-à-dire que je dois donner à connaître et à vivre l'expérience que j'ai vécue aux autres pour la vivre vraiment. Cézanne dit un truc extraordinaire.
C'est-à-dire la partager et au moins la proposer.
La proposer, la faire circuler.
La faire circuler.
Et à partir de là, créer un échange symbolique. Symbole, ça vient du grec symbolon, qui veut dire partage. Un symbole, au départ, c'est un objet qu'on casse en deux pour sceller une amitié, en disant, voilà, je te donne l'autre bout de cet objet, et nous partageons cet objet, et dans ce partage, nous scellons une amitié. Amitié, ça se dit en grec aussi, ça se dit philotès ou philia. Et la philia, c'est la vertu du politique, pour Aristote. Alors, le symbolique, c'est un circuit d'échange amical, sensible, qui est la condition d'une communauté politique. Il se trouve qu'aujourd'hui, et depuis déjà de nombreuses décennies, le symbolique est devenu la marque, c'est-à-dire un piège, industriellement conçu, produit, diffusé, distribué, donnant naissance à ce que Gilles Deleuze, qui m'inspire un peu dans ce livre, a appelé les sociétés de contrôle, dont il disait, dans un texte qui porte ce nom, plus exactement post-scriptum aux sociétés de contrôle, dans lequel il disait que le marketing était devenu l'instrument du contrôle social. Et ce contrôle, c'est une misère, parce que il induit une conception de la circulation des symboles entre producteurs et consommateurs, c'est-à-dire selon une division industrielle des rôles, qui ne peut absolument pas tenir durablement pour créer un circuit du désir. Cela crée ce que j'appelle une débandade, ça fait débander.
Mmh. Au sens propre.
Au sens propre. Et d'ailleurs, cette débandade a été structurellement et systématiquement pensée dans les années 50 par une théorie américaine du marketing, qui s'appelait la recherche des mobiles, et qui disait, très littéralement, il faut créer du dégoût pour ce qui existe, en faire que ça devienne très rapidement vieux et démodé, afin que les gens désirent le nouveau.
Donc c'est une stratégie vraiment concertée.
Tout à fait raisonnée.
C'est-à-dire consommer le plus vite et le plus mal possible pour être de nouveau en état de
en manque
et en état de consommer à nouveau.
En manque pour consommer la nouveauté et donc aller vers la jetabilité. Mais le problème, c'est que cette jetabilité, au départ, c'est les rasoirs jetables. Ensuite, ce sont des mouchoirs jetables. Puis bientôt, ça devient des enfants jetables. Des amants jetables, des livres jetables, des musiques jetables, des idées jetables, du ce qu'on appelle du prêt-à-penser, c'est-à-dire du consommable. Parce que il faut que tout soit ultra rapidement consommable, amortissable, rentabilisable, y compris que si un disque ne tient pas en stock dans les rayonnages, je veux dire, ne garantit pas un certain débit, en tant de temps, il est déstocké.
Je vous parle même pas des films.
Et les films...
Parce que les films dans les salles, alors là, ils passent encore plus vite.
Et ça, c'est extrêmement grave, parce que l'expérience du sensible, c'est-à-dire du symbolique, non pas la misère symbolique, mais l'expérience symbolique, c'est l'expérience de la durabilité du temps. Comme l'a pensé, par exemple, la philosophe Hannah Arendt. Comme le montre Cézanne, qui revient sur le motif inlassablement, et qui évidemment ne va être découvert que plus tard. Faut jamais oublier que les grandes œuvres qui nous ont explosé à la figure, nous ont toujours explosé à la figure de manière intempestive, comme disait Nietzsche, ou inactuelle. Lautréamont, l'auteur des Chants de Maldoror, a été refusé par les éditeurs. Marcel Proust, le plus grand écrivain du XXe siècle français, je crois qu'on peut le dire sans hésiter une seconde, a été refusé par Grasset, par Gallimard. Après, ils l'ont pris. Mais au départ, ils l'ont refusé.
Exemple encore plus célèbre, peut-être, et encore plus frappant, Van Gogh. Bien où sûr. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un merchandising. Alors, ça veut dire qu'on fait des tasses, des sets de table, des serviettes, des posters, évidemment, des badges. On peut pas dire que de son vivant, il ait connu ni le succès, ni la reconnaissance.
Tout ça est soumis à une machinerie industrielle par rapport à laquelle on a souvent dit il faut lutter contre la marchandisation de la culture ou encore il faut créer de l'exception culturelle, ce que évidemment je crois juste mais totalement misérable également, parce que prendre le problème comme ça, c'est ghettoiser le sujet, c'est de se dire allez, mettons 0,8% du budget national sur telle ou telle chose, 0,1% du budget européen, 0,1% du budget, 0,01% du budget européen. C'est absolument consternant quand on sait aujourd'hui que l'industrie mondiale repose essentiellement dans le contrôle des marchés par l'esthétique. Que si on consolide tous les chiffres des industries culturelles, du design, du packaging, du marketing, de la publicité, bref, de tout ce qui constitue la constitution de la symbolique industrielle qui sert à fabriquer des marques, je n'en donnerai pas parce que c'est interdit, mais tout le monde sait de quoi je parle, des marques qui sont capables ensuite de créer des comportements de masse au niveau de milliards de gens, pour des paires de chaussures, pour des survêtements, ou pour tant d'autres choses. Ça constitue 40% du business mondial. Alors quand on dit il faut mener une politique d'exception culturelle, il faut essayer de protéger la culture, les intermittents du spectacle, etc. Bien sûr qu'il faut faire tout ça, mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est il faut se rendre compte que nous sommes dans une société qui est en train de produire une réalisation industrielle de symboles purement réalisés par des calculs, et des calculs à très court terme, et qui sont en train, ces processus de production industrielle, de détruire purement et simplement tout lien symbolique. Avec, nécessairement, des réactions qui peuvent être des réactions dans les arts contemporains, par exemple, extrêmement déroutantes pour le public, mais qui sont pacifiques et très intéressantes, qui essayent d'explorer de nouvelles possibilités d'expérience esthétique, par rapport auxquelles, cependant, il faut jamais oublier qu'une immense partie de la population n'y comprend absolument plus rien. Et c'est grave.
Mais c'est là où votre pensée est profondément politique, Bernard Stiegler. Je vous interromps juste sur ce point, excusez-moi. C'est que vous dites que vous constatez, et bien sûr que le 21 avril 2002, de ce point de vue, a été important pour vous, c'est-à-dire la présence de Jean-Marie Le Pen et du Front National au second tour de présidentiel en France. Vous constatez qu'il y a une masse, des masses entières de population dont vous êtes issu, vous tenez à le préciser, vous dites que vous connaissez bien ce monde parce que vous en venez, et non seulement vous en êtes coupé, mais vous dites je ne partage plus aucune expérience esthétique avec elle.
J'ai le sentiment, et c'est vrai que, comme je dis dans ce livre, ça m'a un peu pété à la figure le 21 avril, même si ça faisait longtemps que j'avais ce sentiment-là. Parce qu'en effet, c'est un milieu que je connais bien. Moi, j'ai vécu à Sarcelles pendant très longtemps. Je suis dans un milieu très populaire. J'ai un parcours vraiment de banlieusard, y compris avec des passages par la délinquance et tout ça. La vie a fait que petit à petit, je suis devenu universitaire, etc. par chance.
Par chance et par accident, vous dites.
Et par accident, oui, parce que j'ai fait 5 ans de prison et pendant ces années de prison, j'ai été amené finalement à réfléchir. Mais j'ai eu du temps. La prison, c'est très très dur, mais c'est même terrible. Aujourd'hui, c'est encore bien plus terrible qu'à l'époque où j'étais, je crois. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on y a du temps, qui est une denrée absolument précieuse. Rien n'est plus précieux que le temps, absolument rien. Et ça m'a amené à réfléchir sur beaucoup de choses, et notamment sur la misère, pas seulement symbolique. Parce que la misère, en prison, on sait ce que c'est. Cela étant, le 21 avril, j'ai pensé à des gens que je connais parce que j'ai vécu, moi, 10 ans dans une région, une centaine de kilomètres de Paris, où il y a beaucoup de gens qui votent pour le Front National. Et puis beaucoup de gens qui ne votent pas pour le Front National, mais qui vivent dans une misère. symbolique, alors là effectivement, et pas seulement symbolique, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, extrêmement grande, où ils n'ont plus comme vie esthétique que ce que j'appelle un conditionnement esthétique. C'est-à-dire qu'ils sont visés comme des cibles, ils sont tirés comme des lapins par le marketing, qui leur fait consommer des téléphones portables avec lesquels on peut faire des photos, des motos extrêmement chères avec lesquelles d'ailleurs les mômes se tuent souvent, ou ont des accidents, parce qu'ils prennent aussi du crack en conduisant leur moto. Aujourd'hui c'est comme ça, il faut savoir ça. Et ils sont matraqués littéralement par des officines qui sont spécialisées dans la capture de ces gens-là, qui sont endettés comme c'est pas permis, et qui consomment des choses qui ne leur apportent aucune possibilité d'exister, c'est-à-dire de manifester leur singularité, et qui donc créent en eux un manque terrible qui fait qu'ils consomment encore plus pour essayer de combler ce manque, ce qui ne fait qu'en tout cas intensifier le manque.
Pour vous, c'est le cœur du drame, c'est les mots que vous venez de prononcer, c'est la perte de la singularité.
C'est la perte de la singularité, c'est la perte de l'existence, et le rabattage au niveau de la subsistance. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne font plus qu'essayer de subsister, tout en étant obligés. Moi j'ai vu des gens me dire, des gens très pauvres, qui sont au RMI, mais qui ont des gosses à l'école, me dire, mais tu comprends, je suis bien obligé d'acheter une trousse machin d'une marque bien connue, même si elle coûte 200 balles, alors qu'elle coûte 10 francs à être fabriquée, parce que sinon mon gosse ne sera pas reconnu. Et ça c'est absolument abominable, c'est une aliénation du consommateur, qui est vraiment dans une misère, alors pas seulement symbolique, là, c'est une captation de toute son existence. Et par ailleurs, c'est une privation d'existence et de singularité, de reconnaissance, parce que ça crée aussi chez les parents une non-reconnaissance par leurs enfants. Les parents sont court-circuités par toutes ces autorités symboliques. Normalement, Freud nous a appris ça, le père et la mère sont les premières autorités symboliques sur les enfants. Quand il y a un matraquage symbolique de ce type-là, par ce que j'appelle le conditionnement esthétique, les parents sont privés de leur possibilité d'exercer leur rôle parental. Du coup, eux-mêmes ne se reconnaissent plus parce qu'ils ont honte. Ils ont honte d'eux-mêmes. Et à partir de là, faut s'attendre à tout. Ils peuvent passer à l'acte. Ils peuvent voter d'une manière que je crois suicidaire, pour ma part. Je pense que ce sont des comportements de vote suicidaires, que ces gens-là savent être suicidaires, d'ailleurs, parce qu'il faut pas prendre ces gens-là pour des imbéciles. Ils sont réduits à la misère, et donc ils ont des comportements qui sont induits par cette réduction à la misère, mais ce ne sont pas des imbéciles du tout. Moi, j'ai discuté souvent avec des électeurs du Front National, et ce sont des gens qui m'ont souvent surpris. C'est ça qui est extrêmement troublant. Quoi qu'il en soit, je pense que cette misère symbolique ne peut pas durer, qu'elle conduit à ce que j'appelle une crise écologique du symbolique et du spirituel.
Bernard Siga, vous parlez de guerre. Hein.
Je parle de guerre. Je dis que nous sommes dans une guerre esthétique, et que cette guerre esthétique engendre des guerres qui ne sont pas esthétiques du tout. Par exemple, aujourd'hui, Al-Qaïda prospère sur ce fait-là, au niveau géopolitique pour le coup. Par exemple, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont en Irak et ont des GI ou des Marines qui font la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils font la guerre? C'est parce qu'à force d'utiliser les armes symboliques des films, Jean-Michel Frodon avait montré très bien dans un livre qui s'appelle Cinéma et Nation que l'Amérique du Nord utilisait le cinéma, le Hollywood, pour produire du contrôle symbolique et du contrôle politique. Et Frodon disait, c'est bien mieux d'avoir des films que des GIs, parce que les GIs ça coûte cher et ça vous crée des ennemis, tandis que les films ça rapporte de l'argent et ça vous fait des amis. Mieux vaut Mickey et Charlie Chaplin que des GIs et McNamara. Mais
avec le risque en plus que les cercueils reviennent vers les États-Unis,
évidemment,
et c'est comme ça que les présidents des États-Unis perdent les élections.
Et ça se finit toujours comme ça, parce que les peuples aussi ont des narcissismes, ont des singularités, et vous savez bien comment les Vietnamiens, dans des conditions absolument incroyables, ont réussi malgré tout à faire partir les Américains du Vietnam. Eh bien, en Irak, c'est ce qui va se passer. Mais pourquoi les Américains ont été amenés à un moment donné à envoyer des soldats en Irak, et pas seulement en Irak, parce qu'ils en envoient partout, c'est parce qu'il y a un moment où l'arme symbolique, quand on va aux limites du possible, elle perd son efficacité. Et à partir du moment où son efficacité ne fonctionne plus, eh bien, on peut plus simplement envoyer des films, on doit envoyer des militaires. Mais en retour, on reçoit aussi des terroristes. Donc, cette crise d'écologie symbolique, c'est pas simplement un problème d'intello entre, il faut opposer l'expérience esthétique, artistique, conditionnement esthétique du marketing, c'est derrière ça l'avenir de la planète. qui se joue.
Alors, on sait que le cinéma vous intéresse beaucoup parce que vous aviez consacré un livre, pas, peut-être pas tout à fait au cinéma, mais quand même au cinéma comme industrie aussi. Et là, dans ce livre, il y a un très long texte sur le film d'Alain René qui s'appelle « On connaît la chanson ». C'était ce film donc où les personnages parlaient, comme vous et moi sommes en train de le faire, et puis tout à coup se mettaient à chanter des chansons populaires, comme aurait dit Claude François, des ritournelles, comme ça. Donc je voudrais qu'on en écoute un extrait. C'est Jane Birkin qui est à la gare du Nord, qui discute avec son époux. On vient d'ailleurs de découvrir que c'est son époux, qui est interprété par Jean-Pierre Bacri. Et elle va se mettre à chanter une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle « Quoi ?».
Bon, et puis si t'es venu pour me dire encore une fois que je fais pas les choses comme tu voudrais que je les fasse, c'était pas la peine. Franchement, j'ai aucune envie d'entendre pour la énième fois tout le mal que tu penses de moi, ça va. Je suis au courant.
Je ne pense pas de mal de toi.
Je fais ce que je peux, je suis seul. Je suis tout seul. Tu crois que les choses se font en 5 minutes, toi?
Je te demande pas de faire les choses en 5 minutes, je suis pas une idiote. Je te demande d'arrêter de me raconter des histoires. Combien de fois que j'entends au téléphone que tout est arrangé, que tout sera réglé dans 2 jours? Arrête de me raconter des histoires, c'est tout. Je ne pense pas de mal de toi, Nicolas. Écoute-moi, écoute-moi. Pourquoi tu veux toujours faire croire à tout le monde que tu maîtrises tout et que tout va bien? Pourquoi tu me dis pas, je n'y arrive pas, ça marche pas? Dis-le-moi. Je préfère. Moi, je préfère la vérité.
Arrête, si ça allait pas, je te dirais.
Bon, si je te crois, tu t'es occupé de tout, tu as tout organisé. Moi, les yeux fermés, je viens ici à Paris avec les enfants, les valises. Voilà, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Comment veux-tu que je te fasse confiance?
Mais ouais, t'as raison, me fais surtout pas confiance, je suis pas un garçon bien comme il faut.
Oh, arrête, Nicolas.
Mais ouais. Tu veux que je te dise ce que c'est le problème? Hein? C'est que tu voudrais que je sois tellement différent que tu voudrais que je sois quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Ah bah tant pis. Je suis qui je suis, et puis c'est tout. Si ça te va pas...
C'est tout ce que tu as à me dire?
Ouais, c'est tout. Pourquoi? J'ai encore pas eu la bonne réaction, là.
Quoi? Notre amour fait resterait que des cendres. J'aimerais que quelqu'un s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. Va donc savoir, va comprendre. Bon, je vais repartir. Je vais reprendre le train là tout de suite. Je veux pas rester ici.
C'était Jane Birkin et Bacri dans le film « On connaît la chanson » d'Alain René. Bernard Stiegler, bien sûr, je vais prendre les choses beaucoup plus en avant que votre propre texte dans ce livre qui s'appelle « De la misère symbolique ». Mais si ce film d'Alain René vous a autant intéressé et autant touché, c'est qu'il y avait cet art mineur, c'est Serge Gainsbourg hein, qui le disait, c'est pas moi justement qui a écrit la chanson qu'on vient d'entendre, qui est la chanson, la variété presque, art mineur, disait Gainsbourg. Et puis le cinéma, que vous décrivez encore presque comme disons une possibilité de résistance à cette perte de la singularité que vous analysez, et parce que le cinéma est encore un peu, et vous dites que les cinéastes résistent encore un peu, parce que ça peut être encore parfois cet art populaire qui permet de partager des émotions esthétiques.
Mmh. Oui, je crois que le cinéma a une responsabilité extraordinaire, littéralement extraordinaire aujourd'hui. C'est une industrie culturelle, le cinéma. N'importe quel film fait partie de l'industrie culturelle. Parce que n'importe quel film est fait avec une machine. Une caméra, c'est une machine. Un projecteur, c'est une machine. Un réseau de télévision, un lecteur de DVD, c'est une machine. Une petite machine, éventuellement, aujourd'hui, une caméra DV ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est une machine. Et il faut un circuit aussi de production. N'importe quel film, même quand c'est un tout petit budget, c'est déjà pas mal d'argent.
Et surtout de diffusion.
Et surtout...
C'est sûrement le plus difficile aujourd'hui. Parce que la limite, fabriquer un film, on peut dire, c'est plutôt plus léger qu'avant, mais en revanche, le donner à être regardé, ça, c'est peut-être plus difficile qu'avant.
Bien sûr. Or, le cinéma, comme Godard l'a dit, c'est le XXe siècle. C'est ce qui s'est passé au XXe siècle. L'histoire du XXe siècle est absolument indissociable. Tout événement du XXe siècle est indissociable de l'histoire du cinéma. dans une gamme d'ailleurs de réalités cinématographiques extrêmement large. Depuis le cinéma le plus abominable, car il y a un cinéma absolument abominable, que ce soit le cinéma hollywoodien le plus vulgaire, jusqu'au cinéma de propagande nazie, qui peut être parfois extrêmement puissant d'ailleurs, en passant, disons, par la pornographie la plus vulgaire, parce qu'il y a de la pornographie qui n'est pas toujours vulgaire. Et à l'inverse, le cinéma, pour moi, a révolutionné la question esthétique en général. Et a effectivement, par ailleurs, toujours dû être un art de masse, parce que on ne peut pas faire un film sans avoir un nombre d'entrées suffisant pour en amortir le coût. C'est quelque chose qui coûte cher à produire, un film. Même quand c'est un petit film, c'est quand même toujours beaucoup d'argent. C'est pas faire un tableau avec quelques cubes de couleurs. Et donc ça pose la question du nous. Du nous et de la masse. Parce que le film s'adresse à une masse. Une salle de cinéma, c'est déjà une masse. On est ensemble devant les images. Alors, le cinéma peut se transformer et devenir la télévision. Là, je parle du cinéma en tant que technologie. La télévision, c'est l'âge électronique de la technologie du cinéma. Ça peut continuer à être un art, d'ailleurs. Godard et bien d'autres, Bergman, beaucoup, se sont essayés à la question télévisuelle du cinéma. Mais à ce moment-là, on n'est plus simplement dans la masse du cinéma, on est dans l'hypermasse, on passe dans une autre échelle. Et là se posent des questions esthétiques qui nous reconduisent à ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire expérience ou conditionnement. Je crois que, à force d'utiliser les industries culturelles et les technologies du marketing, les systèmes de calcul, il faut savoir qu'il y a des films qui sont intégralement faits sous conduite et impératif d'un marketing, et qui donc sont fabriqués avec véritablement des ratios de calcul, des sondages, des focus group, etc. Tout ce qu'on utilise pour fabriquer les automobiles, les savonnettes, les pâtes dentifrice. À force de, pour faire cela aussi, de faire ce que j'appelle, excusez-moi cette expression, taper en dessous de la ceinture. C'est-à-dire viser le pulsionnel, je vais employer des mots un peu techniques, non lié. C'est-à-dire qui n'est pas capable de produire du désir, ce que j'appelais tout à l'heure, du circuit symbolique, mais bien du manque pulsionnel. À force de faire cela, qu'on a utilisé, parce que tout le cinéma utilise toujours la pulsion, n'importe quel film, ça parle toujours de quoi? D'amour, de mort, de choses, de passion, qui sont en fait initialement des pulsions. Le grand maître de ça, c'est Hitchcock. Il y en a beaucoup d'autres, mais le grand maître de ça, c'est Hitchcock.
Oui.
Mais comment est-ce que cette pulsion produit quelque chose d'artistique? C'est quand elle est liée pour produire dans le spectateur une catharsis qui va l'amener à transformer sa pulsion en un désir. Quand vous regardez Love Story, quand vous écoutez Star Academy, qu'est-ce qu'il y a à voir et à regarder? Plus rien. Que du pulsionnel brut, que j'appelle moi du pulsionnel porcin. Vous sentez bien, si vous regardez un truc comme ça, que vous êtes dans le voyeurisme, dans l'exhibitionnisme. Le système sait utiliser vos pulsions voyeuristes et exhibitionnistes, parce que nous sommes tous tramés par des pulsions. Nous avons tous tendance à nous comporter comme des porcs, comme des bêtes. Nous devons être élevés, éduqués. L'histoire de l'humanité, du circuit symbolique, c'est un processus de culture au sens où nous devons essayer de devenir pas simplement des êtres pulsionnels, mais des êtres qui symbolisent. Donc des êtres qui sont capables de transmettre une expérience du passé, une expérience esthétique ou une expérience intellectuelle, religieuse, politique, etc. À force de tirer toujours en bas de la ceinture, en dessous de la ceinture, l'industrie culturelle cinématographique a fini par faire que les gens deviennent aveugles et sourds. Moi, je travaille à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est un endroit où on fait une musique absolument extraordinaire. Mais on s'aperçoit que les gens sont devenus sourds à la musique parce qu'ils sont tellement matraqués de facilités qui sont calculées pour les conditionner.
Parce que nous sommes les uns et les autres assourdis.
Bien entendu. Bien entendu. Et aussi parce que nous avons une tendance spontanée à aller vers la facilité. Quand nous avons des enfants, nous leur disons il faut pas se comporter n'importe comment. Il faut bien se tenir à table, il faut pas mettre les doigts dans son nez, etc., etc. Nous essayons de les amener à un certain raffinement. Eh bien, l'art a aussi ce rôle dans l'histoire de l'humanité de tirer vers le haut la communauté humaine, mais l'industrie culturelle qui s'empare des moyens esthétiques tire vers le bas. Alors, par rapport à ça, le cinéma a une responsabilité très particulière, parce qu'il maîtrise les technologies des industries culturelles. Évidemment, personne mieux que Hitchcock, qu'Alain Resnais, que Bergman, que Orson Welles ou que Eisenstein ne connaissent les trucs et les ficelles qu'utilisent les industries culturelles. Donc, eux sont mieux, eux et les jeunes cinéastes d'aujourd'hui, comme Bertrand Bonello, que j'aime beaucoup, sont mieux placés que quiconque pour critiquer ces mécanismes d'aliénation, car il faut parler d'aliénation. Ce que Deleuze appelle du contrôle par l'esthétique, c'est bien de l'aliénation mentale et sensible. C'est une réduction à la misère esthétique et symbolique par l'aliénation. Et là, le film de Resnais, pour moi, constitue un chef-d'œuvre absolu. Quand j'emploie le mot critique, il faut bien comprendre que je ne parle pas de dénonciation. Je suis philosophe et chez les philosophes, critique ne veut pas dire du tout dénonciation. Ça veut dire analyse, compréhension et dépassement. Critiquer la situation actuelle, c'est en énoncer les limites. Cette situation dans laquelle nous sommes, on a besoin des industries culturelles, on a besoin du marketing, on a besoin de la publicité, parce que sinon les usines ne tourneraient plus, le chômage exploserait et nous entrerions dans une situation de guerre mondiale, de toute évidence. Donc je suis pas du tout en train de dénoncer les industries culturelles. Je suis en train de dénoncer le fait qu'elles vont beaucoup trop loin et que si ça continue comme ça, ça va nous péter à la figure.
Merci beaucoup Bernard Sigler. J'aurais pu vous écouter encore très longtemps. Les deux livres publiés chez Galilée s'appellent De la misère symbolique. C'est le premier tome, L'époque hyper-industrielle. C'est pas un livre facile, c'est vrai aussi. Et puis, vous avez donné des entretiens sur France Culture avec Élie Düring. C'est aussi chez Galilée et ça s'appelle Philosopher par accident. Merci beaucoup et on retrouve tout de suite Philippe Collin.